Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani en direct de la maison de la presse de Bamako. Il est 18h, le journal avec Seydou Fama. Bonsoir. C'est parti depuis ce matin pour le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Occasion pour les experts de la sécurité de discuter de la stratégie intégrale contre le terrorisme. Au menu, plusieurs autres sujets parmi lesquels la réforme du secteur de la sécurité et la lutte contre le financement du terrorisme. Selon certains observateurs, le Forum de Dakar n'est ni plus ni moins qu'une rencontre de plus. Ils estiment qu'il ne s'agit pas d'organiser des forums, mais plutôt de trouver les moyens stratégiques susceptibles de sécuriser les populations et leurs biens et de gagner la lutte contre le terrorisme. Le chef de village de Ouro-Djéou, à 107 km de Badjangara, a été assassiné ce samedi par des hommes armés non identifiés. Les autorités locales demandent à l'État de renforcer sa présence dans le cercle pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le conseil communal des jeunes d'Ansongo décide de fermer la mairie de la localité jusqu'à nouvel ordre. Il reproche au maire des malversations dans la gestion des fonds attribués au cercle. Une déclaration est réfutée par le maire. Auditrice, auditeur, bienvenue. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce matin dans la capitale sénégalaise. Durant 2 jours, les experts de la sécurité vont discuter de la stratégie intégrale contre le terrorisme, mais aussi de la réforme du secteur de la sécurité, la cybersécurité, la piraterie maritime ou encore la lutte contre le financement du terrorisme. Les chefs d'État du Mali, du Rwanda et du Togo prendront part à ce forum. Ce rendez-vous a été initié par la France lors du sommet de l'Elysée en 2013 à Setou Kanté.
Cette année, la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique sera consacrée aux défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Durant ces 2 jours, les diplomates, militaires et des civils, chercheurs, universitaires et experts vont se pencher sur cette problématique du terrorisme. Selon les organisateurs, la situation sécuritaire en Afrique devient capitale avec la montée en puissance des groupes terroristes. L'Union africaine estime que la liste de groupes qualifiés de terroristes et opérant sur le sol du continent ne cesse de s'allonger. Environ 16 groupes seraient actifs à nos jours. Et le Mali, malgré le déploiement des forces occidentales et onusiennes, est devenu le principal sanctuaire des groupes islamistes en Afrique. Des actions dont la mise en place et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel sont donc menées pour contrer la menace. Cette force réunit la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, qui sont les pays directement menacés par les organisations djihadistes qui sévissent dans la région. La poursuite des opérations de la force du G5 dépend désormais des contributions financières bilatérales qui seront finalisées lors de la conférence des donateurs prévue le 16 décembre prochain. La nécessité de soutenir financièrement la mise en œuvre de la force régionale africaine sera débattue encore lors de ce forum de Dakar.
Pour certains observateurs, le Forum de Dakar n'est autre qu'une rencontre de plus. Selon eux, les dirigeants africains doivent changer de méthode puisqu'il y a déjà eu de nombreuses rencontres pour peu de résultats. Ils estiment qu'il ne s'agit pas d'organiser des forums, mais plutôt de trouver les moyens stratégiques susceptibles de sécuriser les populations et leurs biens et de gagner la lutte contre le terrorisme. Brema Elidiko, spécialiste des questions sécuritaires, au micro, il est donc joint par Assetou Kanté.
C'est un forum de plus. Bon, les rencontres, en réalité, il y en a toujours. Hein. Ce qui change, c'est un peu les pays dans lesquels les rencontres, les forats et autres, là, se déroulent. Mais c'est toujours les mêmes forats, les mêmes acteurs, les mêmes experts, les mêmes conclusions, les mêmes recommandations. Mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, nous assistons en réalité à la triste réalité de la recrudescence de l'insécurité, des connexions même finalement transfrontalières entre les différents groupes qualifiés de djihadistes, des choses comme ça. Donc, c'est comme si plus il y a des forums, plus il y a des sécurité. Et donc, on se demande à un moment donné, est-ce que tout ça, c'est pas un gâchis d'argent? Dans tous les cas, un des enjeux, donc, c'est vraiment de comprendre un peu l'évolution des menaces sécuritaires en Afrique. Aussi de voir comment les différents acteurs peuvent harmoniser un peu leurs actions pour plus d'efficacité. Donc, on espère que le forum ne va pas accoucher d'une souris. C'est pas ça qu'un forum de plus.
Et réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamani et sur son compte Twitter. Vos réactions sont également les bienvenues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. Le chef de village de Ourodjéou, à 107 km de Badjangara, a été assassiné ce samedi par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, les assaillants sont arrivés sur le lieu à moto. Les autorités locales demandent à l'État de renforcer sa présence dans le cercle pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Selon elle, cette zone est de plus en plus infestée par des bandits qui n'hésitent plus à tirer à bout portant sur les habitants. Bourema Teli, deuxième adjoint au conseil de cercle de Badjangara, il est joint au téléphone par Idrissa Sako.
Il a été tué par deux hommes armés sur une moto. Ils sont venus l'appeler et ils l'ont tiré à bout portant. Nous aussi, au niveau de Badjangara, les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est au moins nous demandant à l'État vraiment de sécuriser les zones. C'est-à-dire dans la zone de Léolidio, de Tignari, de Kargué, dans la zone de Timiri, de Barassara, les hommes armés sont tous les jours, nous les voyons. L'État prenne les dispositions vraiment pour sécuriser la population.
Vous dites que vous demandez à l'État de prendre les dispositions pour vous sécuriser. Est-ce à dire aujourd'hui que les forces armées du Mali sont invisibles dans la zone?
Le nombre qui est là est très peu. Sinon, à Badjangara, quand vous essayez de voir, ils ne sont pas nombreux. La gendarmerie, la police et la garde nationale, ils ne sont pas nombreux pour couvrir tout le cercle. Maintenant, même s'il y a des choses comme ça, souvent c'est là, c'est après les portées que l'État vient pour venir secourir. Ça, c'est une fois la case est brûlée pour éteindre le feu. Vraiment, c'est un peu difficile.
Le collectif des épouses des militaires accusés dans l'affaire des 21 bérets rouges a tenu ce matin une conférence de presse pour attirer l'attention des uns et des autres sur le sort réservé à leurs époux. Elles demandent aux plus hautes autorités du pays d'ordonner le jugement de leur mari ou de leur accorder la liberté provisoire. Selon elles, de nombreuses révélations seront faites le jour du jugement sur le conflit du contre-coup d'État du 30 avril 2012. Madame Dambélé Madina Sissoko au micro d'Ousmane Diko.
Si on arrivait à amener ces résultats, ça allait être une victoire pour eux. Ça allait les faciliter la tâche, les faciliter de condamner ceux qui doivent être condamnés. Mais pourquoi les résultats de ces tâches d'ADN-là s'attendent à venir? Parce que les résultats qui sont là-bas ne sont pas satisfaisants pour eux. Ce sont des résultats décevants. Mais actuellement, ils ne veulent plus parler de ça. C'est nous qui voulons les obliger à parler de ça. Ils avaient demandé 45 jours, novembre 2016 à novembre 2017. On est à combien de fois 45 jours? Les jours du procès, ces hommes politiques-là, les noms, même les conversations enregistrées sur clé USB, sur les cartes mémoire, on en a. Sur les films, on en a. Les enregistrements téléphoniques, on en a. Les conversations face à face, on en a. On va les faire ressortir le jour du jugement. Les indices qui sont là, quand Abdina a été appréhendé, maintenant, c'est sûr qu'au niveau de la gendarmerie, il a eu à faire une déposition. On a la copie de la déposition avec nous. On a toutes les conversations téléphoniques enregistrées avec nous, que ce soit pour Orange ou pour Balitel.
Le conseil communal des jeunes dans Songo a procédé ce matin à la fermeture de la mairie de la localité jusqu'à nouvel ordre. Il reproche au maire des malversations dans la gestion des fonds attribués au cercle. Une déclaration réfutée par le maire, Alassane Sidi Touré, annonce que les fonds alloués à la mairie dans Songo n'ont jamais été détournés. La deuxième semaine des négociations a débuté ce matin à Bonn. Nous sommes donc en train de parler de la COP23. À l'issue de la première semaine, le bilan est mitigé. Pour rappel, l'objectif fixé par la COP23 et la COP24 est de définir les règles et les mécanismes de l'application des accords de Paris. Les observateurs sont unanimes. Les avancées sont timides. Certains évoquent même un manque de volonté concrète donc de s'engager. Nous retrouvons Mohamedou Touré, notre envoyé spécial.
La semaine a été dominée par la conférence de presse le week-end dernier du groupe de négociation regroupant des grands pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui compte parmi les tout premiers pays émetteurs de gaz à effet de serre. Le délégué chinois Chen Zunhua a rappelé qu'en 2012, je cite, les pays développés ont accepté de revoir leurs objectifs de réduction des émissions. Nous ne voyons guère de progrès. Il y a un manque pas uniquement sur les actions, mais aussi sur le soutien aux pays en développement. Et de conclure, si nous ne respectons pas les décisions prises, comment créer la confiance et comment donner une bonne base à l'application de l'accord de Paris? Ces poids lourds suivis par le G77 regroupant les pays en voie de développement ont appelé les pays industrialisés à renforcer leur plan climatique, d'honorer une dette, la dette historique, et à annoncer clairement leur contribution financière au projet d'atténuation et d'adaptation avant même l'entrée en vigueur faveur du Fonds vert en 2020. L'une des propositions est d'instaurer une révision de ses contributions tous les 5 ans. L'idée lancée il y a 2 ans lors de la COP21 à Paris avait été évincée au profit d'un esprit non contraignant des accords de Paris. Les pays industrialisés craignent de leur côté une spirale négative et un retour en arrière qui ne colle pas avec la dynamique des accords de Paris qui avait pourtant marqué un tournant dans l'engagement dans la lutte contre le changement climatique. Sur un plan strictement diplomatique, dans un cadre strict de négociation, le fait d'avoir une échéance fixée à la COP24 qui se tiendra en Pologne l'année prochaine n'aide surtout pas à l'avancée des négociations. Personne ne souhaite abattre ses cartes et laisse le temps de faire montrer la pression. Mohamedou Touré depuis Bonn pour Studio Tamani.
Mohamedou Touré nous signale qu'à partir de mercredi prochain, les délégations se retirent pour passer les relais aux politiques. Ministres et chefs d'État sont annoncés Angela Merkel, Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État africains. Les États-Unis, à ce stade, représentés par une équipe discrète mais active selon les négociateurs, environ un diplomate.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, une trentaine de personnes vivant avec le diabète, dont 5 femmes, ont marché hier à Sam. L'objectif de cet exercice est d'inviter les diabétiques à faire des exercices physiques pour être en bonne santé. La marche a été organisée par les responsables de l'association des diabétiques de Sam en collaboration avec le centre de santé de référence. Une session de sensibilisation sur l'accès à la justice des victimes du conflit, des conflits donc dans le cercle de Tombouctou a débuté ce matin dans la localité. Cette session vise à sensibiliser les acteurs de la société civile du cercle sur les droits humains et la chaîne pénale. Plus d'une cinquantaine de personnes, dont des partenaires techniques et financiers et des jeunes associations, ont pris part à cet atelier organisé par Sankourilab et financé par IDLO. Une cinquantaine de femmes résidant en France, originaires des villages de Djomboukou et de Sero Yamanou, dans le cercle de Kai, se sont réunies hier à la gare de Lyon en France. Cette réunion avait pour objectif de créer une association des femmes des 6 communes du cercle en France. Selon les organisatrices, ce regroupement va permettre de créer une synergie d'action avec leurs sœurs engagées dans les actions de développement au Mali. Le Grand Dialogue s'est assuré dans quelques minutes avec Aliou Sirbi. Bonsoir, de quoi sera-t-il question dans le Grand Dialogue de ce lundi?
Effectivement, M. Fomba, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui, c'est l'insécurité alimentaire au Mali. On sait qu'une famille sur 4 est menacée par l'insécurité alimentaire au Mali et un rapport récent a attesté que 7 cercles seront touchés par une détérioration des prévisions de l'enquête effectuée en février 2016. Qu'est-ce qui explique cette situation? Les acteurs en charge de la sécurité alimentaire disposent-ils des ressources pour relever les défis? Pour débattre de cela, nous avons fait appel à Salimata Diara de l'ASCOMA, Salif Nyang, directeur de Malo Sarl, Valérie Boli, président de la plateforme RI et un agriculteur qui, depuis Mopti, nous accompagnera au téléphone.
C'est tout pour ce journal. Restez à l'écoute dans un instant les magazines.